Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Et nous allons voir la deuxième partie de ce chapitre à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 13. Et nous lirons du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, ni avoir sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans la première moitié de ce chapitre, nous avons vu la dernière fois que l'adversaire, le diable, Satan, n'est pas seul dans son combat, dans son conflit contre l'Église. Nous avons vu que le diable appelle une bête qui monte de la mer et il lui donne le pouvoir de régner sur la terre. Cette bête représente des gouvernements de ce monde, des gouvernements qui sont malveillants, des gouvernements qui œuvrent contre Christ et contre son Église. Et la deuxième moitié de ce chapitre commence en soulignant que cette première bête n'est pas seule, mais qu'elle aussi est accompagnée. Une deuxième bête vient rejoindre la première et cette deuxième bête monte de la terre, premier mot sur la feuille. Et si la première bête représente les puissances politiques et qui, au jour de l'apôtre Jean, cette puissance venait de Rome et elle arrivait dans la région d'Asie par la mer. La bête de la terre, donc la deuxième bête, représente à ce moment-là les forces locales qui collaborent avec l'Empire romain. Et si la première bête représente la tyrannie et le vice de l'Empire, la deuxième bête représente la propagande locale qui va encourager le monde à adorer la première bête. Et nous avons un peu plus loin, au chapitre 13, l'identification de cette... au chapitre 16, pardon, verset 13, l'identification de cette bête. Elle est décrite comme étant le faux prophète. Donc, si la première bête représente le pouvoir politique, le tyran qui utilise le pouvoir, qui utilise la force, la deuxième bête, donc, est le faux prophète. Et la relation entre les deux bêtes elle ressemble à la relation entre l'État et la religion d'État. La bête de la mer est une puissance politique, comme j'ai dit, et la bête de la terre est une institution religieuse ou philosophique qui va encourager, promouvoir l'adoration de la première bête. Cette deuxième bête, nous allons voir, elle a un but. promouvoir l'adoration, deuxième mot sur la feuille, l'adoration de la première bête. Et quand je parle d'institutions religieuses ou philosophiques, c'est vraiment au sens large. C'est vraiment au sens large, c'est toutes ces idéologies qui sont utilisées pour promouvoir l'idolâtrie, le culte de la première bête, ou pour promouvoir l'incrédulité. Ça peut par exemple être le communisme de la Russie, ça peut être le nazisme avec la jeunesse hitlérienne, ça peut être aujourd'hui les statues que l'on voit des dirigeants, par exemple en Corée du Nord, devant lesquels il faut se courber tout du moins. Mais cette bête peut aussi représenter aujourd'hui les médias, qui ont un parti pris, qui vont par exemple cacher toute l'horreur de l'avortement, ou qui vont promouvoir l'immoralité, qui ne vont pas passer à côté de l'occasion de se moquer de la Bible ou de critiquer les positions des chrétiens qui croient dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. La bête décrit toutes ces idéologies, ces faux enseignements, ces mensonges, ces manipulations, tout ce qui est mis en œuvre pour encourager l'idolâtrie, pour encourager l'adoration de la première bête. Et cette deuxième bête va utiliser trois stratégies. Et donc nous avons quatre points. Les trois stratégies de la bête et le dernier point, le besoin de sagesse. Le premier point donc, la première stratégie, les mensonges, troisième mot sur la feuille, les mensonges de la bête. Jean nous dit que la deuxième bête, verset 11, a deux cornes. Et on se rappelle que cette section de l'Apocalypse qu'on est en train de voir, elle a commencé au chapitre 11. Et dans le chapitre 11, nous avons vu l'Église qui est représentée par deux témoins. Deux témoins qui ont été vaincus par la bête. D'ailleurs, c'est dans ce chapitre qu'on a la première mention de la bête. Et ces témoins sont revenus à la vie. Chapitre 11, les versets 3 et suivants. Et donc ici, la deuxième bête qui monte de la terre, elle va parodier l'Église, quatrième mot sur la feuille, avec ses deux cornes, pour s'opposer à ses deux témoins. Elle va combattre le témoignage de l'Évangile, combattre le ministère de l'Église, avec des philosophies subtiles, avec des fausses religions. Et elle va promouvoir la cause du dragon et de la première bête. Le verset 12 nous dit que cette deuxième bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et Jean, dans son expérience, a connu cette deuxième bête sous la forme suivante. C'était les chefs, les autorités locales, si on peut dire, dans chaque ville, dans chaque province, qui ont fait de leur mieux pour copier l'empereur et pour garder la faveur de l'empereur. Ils insistaient que chacun devait adorer l'image de l'empereur. Ils faisaient la promotion du culte de César. Ils obligeaient les gens à l'adorer. Et l'apôtre Jean doit faire face à cette réalité. Les deux cornes forment donc ce contraste au témoignage de l'Évangile, sont opposées aux deux témoins qui représentent l'Église. Mais la bête, elle va aussi parodier le Seigneur Jésus-Christ. Cinquième mot sur la feuille. Parce que le verset 11 précise que la bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Or, le Seigneur Jésus-Christ Lui, il règne pour le bien de son peuple, pour le bien de l'Église, et il règne dans un esprit de grâce. Et cette deuxième bête, ce faux prophète, veut donner cette même impression. Il l'a avec des cornes semblables à celles d'un agneau. Par contre, quand il parle comme un dragon. On retrouve, ou ça rejoint ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 7, verset 15, quand il parle du loup qui est déguisé en brebis. Le domaine de la bête, son domaine préféré, c'est l'Église. Il aime par-dessus tout semer l'erreur par les pupitres, par la chair. Il aime enseigner les doctrines du monde au lieu de la vérité, de la parole de Dieu. Ce qui nous rappelle, bien sûr, à nous, que nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Cela demande la sagesse. Nous avons besoin de discernement, de diriger toute chose par l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons donc être sages, évaluer toute chose à la lumière de la parole de Dieu. Et la bête, cette bête, ce faux prophète, ça peut inclure aujourd'hui des pasteurs, des professeurs d'université, des politiques, des compositeurs de chants, de cantiques, des propriétaires de médias. Toutes ces personnes qui vont cultiver, qui vont transmettre une image de séduction, qui vont attirer les regards et vers un message qui ne vient pas de Dieu, mais un message qui vient du diable lui-même. Et la deuxième bête fait tout cela. Elle dit des mensonges. Elle va séduire les gens pour qu'ils adorent la première bête, pour qu'ils soient émerveillés par elle. Et la bête, cette bête, deuxième bête, a son propre faux évangile, sixième mot sur la feuille. Cette bête est une fausse copie de Christ. Elle a un faux salut. Un salut qui est dans le plaisir, dans la puissance, la rébellion contre Dieu. C'est de cette manière-là que le dragon lui-même, Satan lui-même, déguisé en serpent, a agi en séduisant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et son ordre du jour n'a pas changé aujourd'hui. Quand quelqu'un justifie le mal, il faut voir la bête derrière lui. Quand quelqu'un va encourager la rébellion contre Dieu ou la promotion du péché, voilà, c'est l'adversaire qui est là, qui œuvre. C'est le serpent qui attire les gens à se fabriquer un propre salut, qui s'imagine un Messie qui viendrait. Qui accepteraient leur péché. Et le serpent pousse les hommes à exiger la liberté, mais en fait, il les garde dans un esclavage qui va les amener à la destruction. Cette deuxième bête, donc, avec ses deux cornes semblables à celles d'un agneau, utilise les mensonges pour séduire les gens à adorer la première bête. Les mensonges de la bête. Deuxièmement, la séduction de la bête. Septième mot sur la feuille, versets 13 et 14. La bête va utiliser des signes et des prodiges. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Là encore, Jean fait s'appuie sur ce qu'il connaissait. Les magiciens étaient nombreux dans cette province romaine au premier siècle, principalement employés dans les temples qui étaient dédiés aux idoles. Et en cherchant, on peut trouver des récits qui parle de statues qui bougent, ou d'explosions, de frappes d'éclairs, ou des idoles qui apparaissent avoir le pouvoir de parler. Et par tous ces phénomènes, la bête, encore une fois, elle parodie l'œuvre des prophètes, 8e mot sur la feuille. Elle parodie l'œuvre des apôtres. Rappelons-nous en 1 Roi 18, ce passage où Élie est opposé aux faux prophètes et avec, par la puissance de Dieu, il fait descendre le feu, il fait tomber le feu du ciel en disant au peuple, voilà, l'Éternel est le vrai Dieu. Suivez-le, adorez-le. Et la bête parodie cela. Elle parodie cela par des phénomènes. Et elle dit au monde, mais non, voilà votre Dieu. Voilà votre Dieu. Moïse, rappelez-vous, a lui aussi accompli des merveilles dans la présence de Pharaon. Mais Pharaon avait ses propres magiciens. Et jusqu'à un certain point, ces magiciens ont rivalisé. Mais, cela souligne la réalité que le camp adverse a une certaine puissance, on ne peut pas l'ignorer. Mais seule la puissance de Dieu est vraie. Et par exemple, dans le cas de Moïse, le bâton de Moïse a dévoré les bâtons des magiciens égyptiens. Il y a cette réalité, cette contrefaçon dans ce monde qui existe. Et ces signes et ces prodiges trompent les habitants de la terre. La deuxième bête séduit les habitants de la terre. Un commentateur dit ceci, diverses astuces pseudo-magiques, y compris le ventriloquisme, les faux éclairs et des choses similaires étaient utilisés dans les temples du temps de Jean pour tromper les gens et les amener à adorer la bête. On a l'expression au verset 14, elle séduisait les habitants de la terre. Et l'expression les habitants de la terre désigne ici ceux qui en fait ne pensent qu'à ce monde, ceux pour qui leur demeure est ici dans ce monde. Ces personnes sont séduites. Et elles sont amenées à faire une image de la bête, verset 14. Pourtant, beaucoup de personnes à l'époque de Jean, des personnes de la haute société, ne croyaient pas que l'idole qui était dans le temple était un dieu. Mais elles pensaient que l'idole était un genre de talisman et par lequel elles pouvaient avoir accès auprès d'un dieu. Et c'est pourquoi les magiciens faisaient en sorte d'animer l'idole par leur truc, ou voire même par une puissance démoniaque que Satan leur accordait. Le but était toujours de séduire, de tromper. Et Jean souligne ce mythe de la bête qui meurt et qui revient à la vie, cette blessure mortelle qui a été guérie. Et nous avons vu que là aussi, c'est une parodie de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais cela a sans doute été perçu comme étant le renouveau de la puissance romaine. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et l'Église, après la Pentecôte, ne cesse de grandir. Satan a reçu un coup mortel. Mais voilà que Rome arrive. Rome avec sa puissance, Rome avec sa persécution. Et la bête dit, voilà le Messie que vous attendez. Voilà celui que vous devez croire. Mais c'est un faux évangile, un évangile de gloire terrestre, un évangile qui est faux. Les prodiges effectués par les charlatans représentent une image trompeuse de la divinité. Mais elles séduisent tout l'Empire romain, quelque temps après l'apôtre Jean, la grande majorité des habitants de l'Empire romain adoraient les idoles, adoraient les images de l'empereur, pratiquaient la religion approuvée par l'empereur. La bête a séduit, elle a séduit les gens. Aujourd'hui, comment on peut voir cela aujourd'hui ? Bien sûr, il n'y a pas les trucs des magiciens comme dans les temples de l'époque. Mais aujourd'hui, ce qui est séduit, par exemple, c'est la technologie. C'est le développement de la science. Un commentateur écrit ceci, « La technologie est aujourd'hui ce qui produit des signes et des prodiges. » Avec ce message, adorez la puissance de la bête, la puissance de l'État technocrate, la puissance de l'expert, parce que la science et la technologie peuvent accomplir des prodiges que personne d'autre ne peut faire. Et c'est bien ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, où on nous dit, ben oui, la technologie va nous apporter le bonheur, la technologie va nous apporter la solution à tous nos problèmes. Et les gens en veulent toujours plus, à tous les niveaux. Que ce soit dans les appareils connectés, dans les jeux en ligne, dans les réseaux sociaux, dans la réalité virtuelle, etc. Et en même temps, en disant cela, le monde aussi dit « Mais vous ne devez surtout pas croire ce livre, ce vieux livre, là, qui parle d'un Dieu, qui parle d'un Dieu qui est saint, qui parle d'un salut par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le but du faux prophète, c'est que les gens soient esclaves, qu'ils soient esclaves de la première bête et de son maître, c'est-à-dire de Satan lui-même. Alors bien entendu, je ne suis pas contre les nouvelles technologies, mais elles doivent rester des outils. Elles doivent rester des outils. La bête de la terre, donc, utilise plusieurs stratagèmes. Elle parle du mensonge, elle utilise le faux enseignement dans l'Église, mais autour de l'Église. Elle utilise aussi les signes et les prodiges pour séduire et garder les gens dans l'esclavage. Mais troisièmement, on va parler de la persécution de la bête ou par la bête, dixième mot sur la feuille. Cette deuxième bête ne serait pas décrite comme une bête si elle n'avait pas le pouvoir de persécuter, si elle n'avait pas le pouvoir d'utiliser la violence contre le peuple de Dieu. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et puis les versets 16 à 17 nous parlent de la marque. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce n'est pas un nouveau message. Nous avons déjà vu dans le livre nous avons la violence, nous avons la persécution contre l'Église. Chapitre 2, par exemple, dans la lettre à l'Église de Pergame, le Seigneur Jésus, par la plume de Jean, souligne qu'un homme appelé Antipas était déjà mort pour sa foi. Antipas n'a pas été tué par César en personne, mais bien par les officiels locaux, ceux qui représentaient César, ceux qui faisaient la promotion de l'idolâtrie et qui voulaient montrer leur dévotion à César en persécutant les chrétiens. Aujourd'hui, on a des personnes qui veulent montrer leur dévotion en tuant d'autres personnes. Il y a dans le Nigeria, les musulmans fanatiques qui vont tuer des chrétiens pour montrer leur dévotion à Allah. Ils vont faire exploser des lieux de culte pour montrer leur zèle pour cette religion du diable. Ils attaquent la vraie foi. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés, mais ils sont particulièrement visés. Pourquoi ? Parce que la bête, elle sait. Elle a un ennemi, mais elle sait aussi que son temps est court. La bête tolère les autres religions, mais la horreur de la vérité. 11e mot sur la feuille. Et on retrouve cela depuis Caïn et Abel. Depuis Caïn et Abel, cette opposition entre la religion et la foi. Que peut-on dire de la marque de la bête ? Cette bête, donc cette deuxième bête, introduit cette fausse adoration en exigeant que tous reçoivent la marque. Tous, vous avez lu au verset 16, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Il n'y a aucune catégorie sociale qui ne peut échapper. Alors concernant la marque, vous avez sans doute entendu toutes sortes d'explications. Beaucoup considèrent cette marque comme quelque chose qui doit encore venir. Ils disent que dans un temps futur, l'Antichrist va venir et il va marquer son peuple de cette marque. Et souvent, on va décrire cette marque comme quelque chose de technologique. Alors ça peut être un code-barre ou une puce électronique ou un autre chose. Mais on doit réaliser que quand Jean écrit, il ne décrit pas la marque de la bête comme quelque chose qui doit arriver quand la technologie le permettrait. Mais il parle d'un phénomène qui se passe déjà. De son temps. 12e mot sur la feuille. Il parle d'un phénomène qui se passe déjà à la fin du 1er siècle. C'est quelque chose que les chrétiens du 1er siècle pouvaient comprendre. Le terme grec qui est traduit par marque, c'est un terme qui décrit le sceau de l'empereur. Son sceau sur un document officiel, et en particulier sur un document commercial. Et la marque de la bête fait donc allusion à l'approbation de l'État dans les domaines politiques et économiques. C'est-à-dire l'autorisation de l'État accordée à des personnes pour pouvoir intervenir dans le monde politique ou le monde économique. Et Jean, comme j'ai dit, fait appel à des choses qu'il connaît, des choses que tout le monde connaissait de son temps. Par exemple, les esclaves étaient tatoués sur leur front. Et cela indiquait le nom de leur propriétaire. Et c'est ce qui se passe ici, la bête va marquer ceux qui l'adorent pour les déclarer comme étant sa propriété. Mais les soldats aussi avaient une marque, ils recevaient une marque soit sur la main ou sur le bras. Et cela indiquait quel général ils suivaient. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on rejoint l'armée, on fait partie d'un corps. Là, c'était le général, on suivait tel général, et le nom était inscrit, gravé sur le bras ou sur la main. Et de cette manière, Satan veut montrer qui sont ceux qui le suivent. Jean utilise donc ces exemples pour souligner ce qu'implique la marque de la bête. Et encore une fois, on a une parodie On a une parodie. Si la bête a parodié l'Église, a parodié Christ, a parodié les prophètes et les apôtres, il parodie ici le texte de Deutéronome 6. En parlant des commandements, nous lisons Deutéronome 6, verset 8, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Alors la Bible ne parle pas, bien sûr, de faire une marque physique, comme on pourrait voir aujourd'hui en Israël, avec les Juifs qui portent, je ne sais plus le terme technique, mais sur le front et sur le bras, pour montrer, ou soi-disant montrer, qu'ils font, qu'ils obéissent à ce commandement. Non, ce que la parole de Dieu veut dire, c'est qu'elle nous appelle à soumettre notre volonté, à soumettre notre esprit à la parole de Dieu, à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à être renouvelés, à être transformés, par le renouvellement de l'intelligence. Mais Satan, lui, il dit non. Ma marque est l'opposé. Vous allez penser comme moi je vais vous enseigner à penser. Vous allez agir comme moi je vais vous enseigner à agir. Vous allez adopter et accepter sans discuter ce que je vais vous enseigner par les livres que vous avez à l'école et par ce que les experts vont vous dire. Vous allez croire ces choses. Ma marque sera sur vos mains. Vous allez vous soumettre votre esprit à la façon de penser que je vais vous inculquer. Et vous allez agir en suivant les mauvaises voies que je vais vous dicter. Une chose que cela montre, c'est que la marque de la bête n'est pas quelque chose que l'on recevrait par accident. Certains pensent que cela peut se passer par accident et disent qu'en attrapant la marque, on perd son salut. Mais avoir la marque ou recevoir la marque, c'est d'abord une acceptation, 13e mot sur la feuille, une acceptation formelle d'une allégeance à une personne ou à une institution ou à une cause. Et cette allégeance nous pousse à une dévotion totale à cette personne ou à cette cause, une dévotion que seul Dieu mérite. C'est une acceptation, donc, d'une allégeance totale. Et cette allégeance, en général, sera marquée par une forme de reconnaissance. Par exemple, dans l'Allemagne nazie, ceux qui acceptaient de se joindre et de suivre jusqu'à la mort Adolf Hitler recevaient le brassard avec le symbole nazi. Dans les pays communistes, ce serait la carte du parti, avec des avantages spéciaux. Recevoir la marque n'est donc pas quelque chose que l'on reçoit par accident. C'est une acceptation formelle, d'une allégeance. Mais c'est aussi et souvent quelque chose de subtil, 14e mot sur la feuille. Il y a souvent un processus qui va séduire les gens, qui va les tromper, pour revenir aux soldats allemands du temps de Hitler. Ils ont juré une dévotion inconditionnelle au Führer. Mais quand on lit les archives, on réalise que la plupart de ces généraux n'avaient aucune admiration pour Adolf Hitler. Simplement, ils ont accepté de prendre la marque parce que c'était des patriotes, parce qu'ils pensaient que voilà, cet homme allait faire avancer le pays. Et puis eux-mêmes aussi avaient leurs propres ambitions. Ils voulaient grimper dans la société, gravir les échelons. Et donc ils ont ils ont prêté, ils ont fait allégeance et ils ont fait cette dévotion au Führer. Aujourd'hui, c'est la même chose dans l'entreprise. Il y a des personnes qui veulent monter l'échelle sociale, avoir de plus en plus d'influence, et donc ils vont renoncer à leurs propres valeurs, aux valeurs qu'ils ont reçues de leurs parents ou de leur milieu dans lequel ils sont. Ils vont renoncer à ces valeurs pour accepter les demandes de l'entreprise uniquement pour avancer. On peut voir ça à tous les niveaux de la société. On pourrait parler des jeunes qui vont suivre leurs stars, leurs idoles, prêts à changer, à modifier leur style de vie pour imiter ces stars dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et certains vont même se perdre leur identité. La marque de la bête implique un choix, 15e mot sur la feuille, implique un choix entre le royaume de ce monde et le royaume de Christ. Mais il y a un contraste étonnant et évident entre la marque donnée ici par la bête et la marque donnée en Apocalypse 7. Nous avons vu les serviteurs souffrants qui sont marqués par un ange, qui sont scellés, et l'ange dit de garder jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 3. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous avons eu la contrefaçon, la parodie de la bête. Et ici, la bête parodie l'Église. L'Église qui est scellée en Christ. Et la bête va encore une fois parodier cela avec sa propre marque. Du temps de Jean, la marque de la bête apportait aussi un autre moyen de persécuter les chrétiens, verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La ville de Pergame, rappelez-vous, nous avons vu cela au début de notre étude, une ville où se trouvait l'une des sept églises, était dominée par des confréries de commerçants, des syndicats de commerçants. Et pour avoir une bonne place, pour trouver un bon emploi, il fallait se joindre à l'une de ces confréries, l'un de ces syndicats. Et ces confréries exigeaient entre autres que les adhérents, ceux qui les rejoignent, adorent une image de César ou alors la divinité qui était soi-disant responsable de leur commerce ou de leur activité. Et cela impliquait très souvent une prostitution rituelle. Qu'est-ce qu'un croyant peut faire? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire? Le croyant doit choisir Christ et renoncer à suivre la bête. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est souvent, dans ce cas, un emploi bien moins payé. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui dans le monde du travail. Des entreprises qui sont gérées par des chrétiens peuvent être amenées à tout perdre. Parce qu'elles refusent de se conformer au monde, parce qu'elles ne se taisent pas au sujet de la foi des responsables. Il n'y a pas d'alternative pour le croyant. La bête va encore plus loin. Elle va décrire les disciples de Christ comme étant des traîtres qui sont opposés au gouvernement, alors qu'en réalité, les meilleurs citoyens sont les chrétiens, puisque ce sont eux qui obéissent à Dieu, qui honorent Dieu, qui respectent l'autorité, veulent faire le bien autour d'eux. Mais la bête va dire, non, les chrétiens sont des traîtres. C'est eux qui doivent être rejetés de la vie publique parce qu'ils n'adhèrent pas au programme. C'est la réalité dans le monde aujourd'hui. Au premier siècle, le sceau de l'empereur était même exigé parfois pour simplement avoir le droit d'entrer sur la place du marché. Et ceux qui n'avaient pas le sceau ne pouvaient même pas entrer sur la place du marché et faire commerce. À Pergame, par exemple, la bête a pu réduire les chrétiens à la pauvreté, les amener, certains, à mourir de faim, parce qu'ils n'avaient aucun lieu où ils pouvaient acheter la nourriture. La bonne nouvelle, nous l'avons dans ces lettres que le Seigneur adresse aux églises, c'est que le Seigneur Jésus-Christ sait tout cela. Il sait, il connaît nos situations. Et en Apocalypse 2, verset 9, il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Jésus savait, Jésus connaît la situation des croyants. Et il connaît la situation de son peuple. Il dit « Je connais ». Il dit « Mais tu es riche ». Et puis au verset suivant, 10, verset 10, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Ces paroles sont encore d'actualité pour nous et pour un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, qui vont perdre beaucoup dans ce monde à cause de Christ. Mais rappelons-nous, ce monde ne fait que passer, et nous sommes en route vers l'éternité. Ceux qui perdent dans ce monde à cause de Christ gagneront beaucoup à cause de Christ. La bête va persécuter. Elle va mentir, elle va séduire, elle va persécuter. Ce qui nous amène au quatrième point, le besoin de sagesse, 16e mot sur la feuille. Verset 18, c'est ici la sagesse où d'autres versions plus proches du texte disent « c'est ici qu'il faut de la sagesse ». C'est ici où nous avons besoin de sagesse. Nous avons vu au chapitre 12 le dragon attaquer l'Église pendant toute cette période de la résurrection, glorification de Christ jusqu'à son retour. Et nous avons souligné, comme l'auteur nous le rappelle, comme Jean nous le rappelle, le diable est en colère parce qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. 12, verset 12. Au chapitre 13, nous voyons cette bête tyrannique qui sert le dragon. Et puis cette deuxième bête, cet agent de propagande, ce faux prophète qui arrive. Et nous voyons que les chrétiens ont besoin de beaucoup de sagesse pour traverser, pour vivre notre vie et notre pèlerinage sur terre. Nous avons besoin de sagesse pour discerner, pour faire le bien, pour faire la différence, pardon, entre le vrai prophète et le faux. Comment ? Nous l'avons déjà vu par l'étude sérieuse de la Bible, 17e mot sur la feuille. L'étude sérieuse de la parole de Dieu. Nous avons besoin de sagesse pour réaliser que nous devons nous attendre au prix qu'il faut payer. On ne peut pas s'imaginer traverser la vie sans avoir un prix à payer pour notre foi. Nous devons nous préparer à cette réalité. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a un prix à payer. Dans tout le livre, le Seigneur Jésus-Christ a promis la vie, la couronne de vie à ceux qui persévèrent dans la foi, à ceux qui vont rendre témoignage à son évangile, à ceux qui sont vainqueurs dans la fidélité à Christ. Mais il y a une quatrième forme de sagesse que Jean mentionne ici. Cette sagesse permet aux chrétiens de voir l'ennemi pour ce qu'il est et pour ce qu'il n'est pas, afin que nous ne soyons pas attirés par ses séductions, ni intimidés par ses menaces. Cette sagesse nous appelle à ne pas nous retirer dans notre témoignage, mais à ne pas avoir peur de la bête. Et Jean le souligne ici, dans ce verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tout d'abord, parler un tout petit peu de ce qu'on appelle la gématrie. La plupart des commentateurs supposent que ce chiffre de 666 est une référence codée, qui utilise donc cette pratique ancienne qu'on appelle la gématrie, qui est une science mystique, alphanumérale, et qui en fait part du principe suivant, c'est que dans les langues anciennes comme l'hébreu, le grec et ensuite le latin, il n'y avait pas de système numérique comme nous connaissons, il n'y avait que les lettres de l'alphabet. Et donc, chaque lettre avait une valeur. Et les neuf premières lettres, c'était les unités, les neuf suivantes, c'était les dizaines, ensuite les centaines, etc. Et donc, pour connaître la valeur d'un nom, il suffisait d'additionner la valeur des lettres. Et la théorie, donc, cette théorie nous dit que Jean, ici, nous aide à reconnaître l'Antichrist. Parce qu'il suffira de prendre son nom, de le traduire en grec, et d'en additionner ensuite la valeur de chaque chiffre, de chaque lettre. Et si le total est 666, à ce moment-là, on est en face de l'Antichrist. Il y a un gros problème avec cette méthode, avec cette théorie. C'est qu'il y a trop de candidats. Il y a beaucoup trop de candidats. Je ne vais pas vous donner la liste exhaustive, mais prenez plusieurs empereurs romains ou des papes ou même des réformateurs. L'exemple assez frappant, c'est celui de Ronald Reagan, parce que deuxième prénom, c'est Wilson. Et en fait, Ronald, 6 lettres, Wilson, 6 lettres, Reagan, 6 lettres. Les gens ont dit 666, voilà. Etc. Mais il y a aussi Kissinger, enfin bref, la liste, elle ne s'arrête pas. Le nom qui revient le plus souvent, c'est celui de l'empereur Néron. Et si on prend l'expression César Néron, qu'on le traduit du latin en grec, puis en hébreu, on obtient 666. Et la théorie dit que Jean, donc, est en train de nous dire qu'on va reconnaître l'Antichrist parce qu'il va ressembler à Néron. Ce sera un autre Néron. Quelqu'un de populaire, mais quelqu'un de débauché, quelqu'un qui va persécuter l'Église. Mais il y a deux gros problèmes avec cette approche. Le premier problème, c'est que la plupart des lecteurs de Jean ne lisaient pas l'hébreu, puisque c'était des croyants d'origine grecque, dans la province romaine d'Asie. Et donc, ça ne serait pas venu à l'idée de traduire en hébreu, ensuite en grec, pour arriver à 666. Et l'autre problème qui est plus grave, c'est que pour que ça marche, quand on fait la traduction en hébreu, il faut volontairement faire une faute d'orthographe. Donc on a un gros problème. Mais comme nous l'avons déjà dit, l'Apocalypse n'est pas un livre de devinettes, c'est un livre de symboles. 19e mot sur la feuille. Donc nous venons à la symbole. La meilleure approche pour comprendre ce nombre, c'est de comprendre le symbolisme du chiffre 6. Nous avons déjà souligné la nature des chiffres et des nombres dans ce livre de l'Apocalypse. 7 fait souvent référence à Christ ou à l'Église et décrit la perfection, quelque chose qui est complet, qui est parfait. 6, ça vient juste avant 7. Ça n'arrive pas à 7, c'est juste avant. Et 6 décrit ce qui n'est pas parfait. 6 décrit ce qui est imparfait, ce qui ne peut pas arriver à être parfait, ce qui ne peut pas arriver à la plénitude. C'est le nombre qui va décrire ce qui a des défauts. Et Jean indique que cela décrit l'humanité. L'humanité déchue, il dit, c'est un nombre d'hommes. L'homme, dans son péché, désire être comme Dieu, désire parfois même être Dieu, mais il tombe loin de là. Il échoue. Le dragon et la bête vont se présenter comme une fausse trinité. Mais le jugement de Dieu et la victoire du Seigneur Jésus-Christ vont les révéler comme une triple imposture, un triple échec. 6, 6, 6. Le commentateur le résume dans cette phrase, il dit 6 répété 3 fois indique la plénitude de l'imperfection de la bête. La plénitude de l'imperfection. 20e mot sur la feuille. Une expression que j'ai bien aimée. La plénitude de l'imperfection. Elle est pleinement imparfaite. Totalement imparfaite. Et même, admettons que Jean utilise la gématrie, le terme qu'il utilise, traduit par bête, en grec, donnerait 666. Et le nom de Jésus donnerait 888. Et si Jean utilise ce système, il veut souligner que là où le Seigneur Jésus-Christ surabonde, il est 7 plus 1. La bête, elle échoue comme un imposteur. C'est 7 moins 1. 6, 6, 6. Jean nous dit, nous avons son nombre. Oui, bien sûr, son idolâtrie est impressionnante aujourd'hui. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous savons qui elle est et qui elle n'est pas. Jean nous dit de ne pas prendre cette bête trop sérieusement. Oui, elle peut être impressionnante quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Elle contrôle ce monde, elle peut même nous persécuter. Mais cette bête se dirige droit vers l'échec, droit vers le jugement, droit vers le lac de feu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est immortel, et que son règne est éternel. La bête, elle, est mortelle, et son règne a une fin. Cette bête ne dure que par la permission de Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Et on voit ça tout au long de l'histoire. On a vu des empereurs se lever, des empereurs avec leur empire impressionnant, terrible. Aujourd'hui, ils sont réduits à néant. Ils ont une fin. Jean veut que nous réalisions, que nous comprenions que, oui, nous avons l'opposition d'une fausse trinité, Satan et ses deux bêtes, les tyrans et le faux prophète. Et c'est ici que nous avons besoin de la sagesse. Cette sagesse n'est pas de savoir répondre à la bête, c'est pas de savoir comment répondre à la bête avec ses armes à elle. Mais c'est de vivre et de remporter la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. C'est de ne pas savoir comment répondre à la bête avec ses armes. Mais la sagesse dont nous avons besoin, c'est de continuer à vivre et à porter ce témoignage de Christ. Ce n'est pas de savoir comment éviter la tyrannie de la bête, mais d'avoir le courage et le dévouement pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Jean nous dit en fait ici, je veux que vous sachiez le nombre de la bête, que vous connaissiez ses limitations, que vous connaissiez sa défaite certaine. Elle est vouée à l'échec, elle est vouée à la destruction, son règne n'est pas éternel, il aura une fin. 6, 6, 6. Et en sachant cela, Jean veut aussi que nous vivions en dehors, que nous ne soyons pas remplis de crainte face aux attaques de la bête. Parce qu'en réalité, même une attaque fatale contre nous, même si la bête prend notre vie, si nous sommes à Christ, cela nous fait entrer dans la gloire, dans les bras de notre Sauveur bien-aimé. notre Sauveur victorieux. Donc, qu'est-ce que la bête peut nous faire? Et Jean nous dit aussi, si nous connaissons le nombre de la bête qui est limité, qui est voué à l'échec, nous devons aussi, et nous allons le voir plus tard, connaître la valeur inestimable de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous calculions la valeur infinie de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Que nous mettions notre confiance dans la perfection de sa gloire, de sa puissance, de sa vie, du salut qu'il accorde, et que nous soyons remplis de courage, 22e mot sur la feuille, remplis de courage dans la présence de la bête, afin de proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ce merveilleux évangile. L'intention de Jean, c'est que ce que dit l'ange au sujet des chrétiens victorieux au chapitre 12, ils le disent aussi de nous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse dont nous avons besoin. De continuer à proclamer le Seigneur Jésus-Christ et de vivre en dépendance de lui. Que Dieu donc nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à le saisir et qu'il nous aide à le vivre pour sa gloire. Amen.